La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
C'est Julie au micro et c'est un plaisir de vous retrouver ce mardi pour cette nouvelle édition des Mardicipales. On parle de sujets liés aux élections à venir des 15 et 22 mars. N'oubliez pas de faire vos procurations si vous partez en week-end, s'il vous plaît. Mais pour aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2026. Et c'est donc aujourd'hui que l'on commémore les 4 ans de l'invasion militaire russe en Ukraine. 24 février 2022, 4 ans déjà. Je me souviens du choc qu'avait été cette guerre aux portes de l'Europe et l'élan de solidarité qui s'était mis en place presque instinctivement pour les réfugiés ukrainiens et ukrainiennes qui fuyaient leur pays bombardé. J'avais été impressionnée par la rapidité de cet accueil, la mise en place de solutions face à l'urgence et l'attribution de ce titre de réfugié quand il faut d'habitude des mois et des mois pour obtenir une protection internationale quand on fuit le Yémen, le Soudan du Sud ou la République démocratique du Congo, pays en guerre également. C'est souvent un parcours du combattant pour obtenir un titre de séjour après le parcours du combattant qu'a été de fuir son pays. Et une fois le titre de séjour reçu, quelles sont les conditions d'accueil ? Et en attendant que la demande d'asile soit traitée, le sort des personnes exilées à leur entrée sur l'Hexagone n'est pas exceptionnel. Mais ne faisons pas de généralité et écoutons plutôt nos invités experts ce soir et explorons ensemble la thématique de l'accueil des personnes exilées, notamment au regard des élections qui approchent. Un programme riche en apprentissage pour cette édition des Mardicipales sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, dans ces Mardicipales, la grande interview sera menée par Lia. On va parler d'un problème auquel la ville de Paris et tous les Parisiens sont confrontés quotidiennement, le nombre affolant de personnes sans domicile. Mais qui dit élection dit proposition de solution. Et c'est Bénédicte Marval, assistante sociale au Comed, qui nous parlera du plan de prise en charge de ces personnes et de l'accueil des personnes exilées. Ensuite, ce sera Grégory, au micro de la chronique Actu, qui va nous parler des étudiants étrangers. Pour poursuivre sur l'accueil des personnes exilées, nous écouterons un reportage signé Betty, qui nous emmène découvrir la maison des réfugiés à Paris. Et pour finir cette émission, Aude nous parlera de l'Institut du Monde Arabe dans sa chronique libre. Un beau programme où on est sûr d'apprendre des choses et qui peut-être nous permettra de réfléchir à quel candidat soutenir au municipal qui arrive. Et oui, on pense à vous sur Radio Campus. Tous les mardis, on vous informe grâce aux Mardicipales.
Les Mardicipales. À l'approche des élections municipales 2026, la matinale de 19h vous propose sa série spéciale. Tous les mardis jusqu'au 10 mars sur Radio Campus Paris.
4940 personnes vivent à la rue dans la métropole du Grand Paris. C'est 10% de plus qu'en 2025. Alors que ce chiffre s'aggrave d'année en année, quelle place pour cette problématique au sein de la campagne municipale ? Bonsoir Lia.
Bonsoir.
Pour en parler, vous recevez Bénédicte Marval, assistante sociale au Comed, le comité pour la santé des exilés.
Et bonsoir à vous Bénédicte.
Bonsoir.
Alors le Comed est un membre du collectif Le Revers et ce dernier propose un plan de prise en charge des personnes sans domicile. L'objectif, permettre aux candidats à la mairie de Paris de s'en inspirer. Alors avant d'évoquer ces différentes mesures, j'aimerais que l'on fasse un point sur le sans-abrisme en général. Qui sont les principaux concernés dans la capitale ?
Alors, je ne vais peut-être pas parler de tous les principaux concernés dans la capitale, mais plutôt du public que j'accompagne. Donc, moi, je suis assistante sociale dans un centre de santé avec des personnes exilées. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, le terme exilé a été choisi et c'est aussi un terme qu'on reprend dans le plan de prise en charge avec le revers pour signifier la contrainte, le départ contraint et le non-choix et tout ce que ça peut avoir comme effet psychologique, ce non-choix justement, de devoir quitter son pays et puis de ne pas pouvoir y retourner comme on voudrait. Ce ne sont pas des touristes, ce ne sont pas des expats, ce sont des personnes exilées. Donc au Comed, on a fait ce choix et dans le collectif aussi, parce que c'est un terme qu'on retient entre associations.
Plutôt que le terme immigration, immigré.
Oui, ou migrants, qui ont d'autres significations et il y a d'autres mots, mais qui à chaque fois ont des définitions qui sont plutôt... migrants, c'est peut-être plutôt dans les médias. À chaque fois, on a des définitions différentes en fonction de d'où on parle.
Donc vous évoquiez le public des exilés, qui est celui que vous accompagnez. Alors il représente, on imagine, une grande part des personnes sans-abri dans la capitale. Est-ce qu'on a une idée de la proportion, ou même vous, auprès des personnes que vous accompagnez ?
Alors nous, au Comed, donc là je vous parle, au Comed on a plusieurs dispositifs, mais je vais vous parler de celui où je travaille en tant qu'assistante sociale, qui est le centre de santé et qui est au Kremlin-Bicêtre. Donc c'est pas complètement Paris, mais c'est pas très loin, et on a plus de 25% des gens qui viennent, qui ont une adresse à Paris, qui viennent nous voir au centre de santé. Et on a aussi un dispositif à Paris, où là c'est plutôt des gens qui sont domiciliés à Paris. Et en tout, donc, sur le centre de santé, on reçoit à peu près 3000 personnes par an. Et sur le dispositif à Paris, on a à peu près 700 personnes par an.
Et ces personnes, comment est-ce que vous les accompagnez ?
Et alors, dans ces personnes, nous, au centre de santé, on a 98% des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas de chez soi. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont, elles sont pas toutes à la rue. Elles peuvent être hébergées chez des tiers. Et ce n'est vraiment pas joyeux. Et c'est des conditions vraiment extrêmes, ça aussi. Ça peut être hébergé par le 115, à la rue de temps en temps, dans des hébergements un peu plus stabilisés. Mais en tout cas, ce n'est pas du chez soi. Et du coup, quand on entend le chiffre de la Nuit des Solidarités, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est sous-évalué, ce chiffre. Puisque c'est à un moment donné, et ce n'est pas toutes les personnes qui étaient dehors cette nuit-là qui ont été comptées, et c'est juste à un moment donné. Et ça ne prend en compte que les personnes qui ont été vues ce soir-là dehors, et pas toutes les personnes qui sont dans des hébergements qui ne vont pas du tout, ou des lieux qui ne sont pas adaptés, ou alors qui sont cachées parce qu'elles ont peur et que...
Alors, je reprends ma question, je vous ai coupé tout à l'heure, je suis désolée. Je voulais simplement savoir comment, au sein du Comed, vous accompagnez ces personnes très concrètement. Quels sont les dispositifs prévus ?
Donc, on est en centre de santé, du coup, la porte d'entrée, ça va être la santé. C'est un accueil inconditionnel. On a des personnes, on n'a pas de personnes françaises, on a des personnes de nationalité étrangère. Qui vont être reçus pour un premier accueil avec mes collègues de l'accueil, et qui vont être dans un bureau fermé, qui vont pouvoir expliquer dans leur langue, parce qu'on travaille avec des interprètes professionnels, elles vont pouvoir expliquer pourquoi elles sont là, quelles sont leurs demandes, et en fonction des demandes et du profil des personnes, elles vont pouvoir être réorientées vers le droit commun, donc vers les hôpitaux par exemple, ou une assistante sociale de secteur, ou une autre... et donc ça va être une orientation qui va être accompagnée, on va expliquer aux personnes pourquoi on les oriente dans cet endroit et pourquoi on ne les garde pas. Et ensuite il y en a d'autres qui vont pouvoir voir un médecin du jour une fois, enfin peut-être une fois et peut-être plus, mais ça va être pour faire une évaluation médicale. Et si c'est pour les personnes qui ont besoin de voir un médecin tout de suite ou qui n'ont pas de protection maladie encore. Ou alors qu'il y a un blocage avec la langue et pas d'interprète dans les expériences qu'elles ont pu avoir avant. Et ensuite, c'est le médecin, la deuxième évaluation qui va faire qu'on peut inclure les personnes dans le dispositif du centre de santé. Et une fois que les personnes sont incluses dans le dispositif, elles vont avoir un rendez-vous avec un médecin qui va pouvoir devenir le médecin traitant. Et ensuite, assistante sociale. Il y a plein de services, il y a les psychologues, il y a une psychiatre, il y a des ostéopathes, de l'éducation thérapeutique pour le patient. Donc c'est pour les personnes qui ont une maladie chronique et qui vont devoir apprendre à vivre avec la maladie chronique. Donc il y a un médecin qui va pouvoir s'occuper de tout cet accompagnement-là, de faire des ateliers, des consultations individuelles. Il y a une gynéco qui fait de la santé de la femme. Voilà, et on fait tout ça avec des interprètes professionnels.
Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette surreprésentation justement des personnes exilées parmi les personnes que vous accompagnez ? Quelles sont les difficultés auxquelles elles sont confrontées, a fortiori ?
Elles sont exclusivement étrangères, en fait, les personnes qu'on accompagne, on inclut. Dans le suivi, les personnes les plus vulnérables des plus vulnérables. Et du coup, je ne me souviens plus de la question.
La raison pour laquelle, justement, en exclusivité, ce sont des personnes exilées que vous accompagnez.
Parce qu'on ne peut pas les orienter. Enfin, parce que l'orientation ailleurs est difficile. Parce que ce sont des personnes qui, souvent viennent d'arriver en France. On a, la moyenne, c'est un an et demi, mais un an et demi, ça veut dire qu'il y en a qui viennent juste d'arriver, il y en a qui arrivent de l'aéroport directement. Et ce sont des personnes qui ont pu avoir, pour d'autres, des expériences avec un médecin ailleurs ou un hôpital ailleurs. Et ça ne s'est pas bien passé. Elles n'ont pas pu expliquer dans leur langue. Ça peut être des personnes qui n'ont pas de droit ouvert encore. Ou les lois, là, ces dernières années, elles restreignent beaucoup l'accès aux droits, en fait, des personnes étrangères. Et par exemple, ça peut être des personnes qui vont demander l'asile ou qui sont au début de la procédure de demande d'asile. Et maintenant, il y a une nouvelle loi. Il faut attendre 3 mois avant de pouvoir faire une demande d'assurance maladie. Donc pendant 3 mois, les demandeurs d'asile, même une fois qu'ils ont fait la demande d'asile, ils ne peuvent pas avoir de médecin traitant, ils ne peuvent pas avoir une évaluation, un bilan de santé. Il y a juste les urgences qui vont être prises en charge. Et en fait, comme vous l'avez dit dans l'introduction, ce sont des personnes qui ont un parcours migratoire violent et qui ont besoin d'un bilan de santé, qui ont besoin de voir une psychologue ou de se poser à un moment donné. Et ça, c'est plus possible maintenant. Il y a les 3 mois de délai de carence qui viennent d'arriver. Ça commence à faire un moment, mais...
Et sans compter le fait que certaines de ces personnes n'ont pas pu arriver légalement sur le territoire et donc se retrouvent à la rue, j'imagine. Est-ce que vous arrivez des fois à être au contact avec ces personnes qui sont vraiment sans logement ?
Alors oui, puisque 98% des personnes qu'on accompagne sont chez soi. Et après, ce sont...
Où est-ce que vous les retrouvez concrètement, ces personnes ? Elles viennent à vous ? Vous allez à elles ?
Alors... On a un service au centre de santé, on a un service de médiation et on fait de l'aller vers, mais c'est vers des bidonvilles avec un public qualifié de Rome. Donc c'est encore un autre public. Et sinon, oui, les personnes viennent à nous, c'est beaucoup du bouche à oreille et elles sont dehors. Alors pas parce qu'elles sont sans papier, puisque l'hébergement, il est censé être inconditionnel. Donc, l'hébergement
vous dites qu'il est censé.
Oui, mais il n'y a tellement pas assez de place. Que forcément, il y a des priorités qui se mettent. Et ce n'est pas forcément sur les papiers les priorités dans l'hébergement d'urgence, pour le moment. Mais les femmes enceintes de plus de 7 mois, par exemple, elles deviennent prioritaires. Mais quand on est enceinte de 4 mois, on n'est pas prioritaire. Quand les femmes avec des bébés, enfin les femmes ou les hommes, mais en général, c'est plutôt des mamans qu'on voit, qui ont des bébés jusqu'à 3 mois, ils sont prioritaires. Mais après, un bébé de 6 mois, bah, il peut se retrouver à la rue parce que... La maman n'est plus prioritaire, le bébé n'est plus prioritaire. Et même avec ces priorités-là, on peut se retrouver avec des personnes qui ont des passages à la rue parce que l'hébergement d'urgence est pour une semaine. Et puis l'hôtel, au bout d'une semaine, il est fini. Et l'hôtel, il peut être dans le fin fond du 77. Puis après, il y a 3 jours à appeler le 115 et il n'y a pas de place. Puis finalement, on retrouve une place, enfin le 115, retrouve une place dans le fin fond du 78. Et ça change comme ça tout le temps. Et donc, ça fait des mamans qui n'arrêtent pas de bouger et qui sont épuisées.
D'accord. Et on évalue à combien le nombre de mères qui sont concernées, en tout cas parmi les personnes que vous accompagnez ?
Parmi les personnes qu'on accompagne, je pense que c'est 100% au départ, à un moment donné.
Ah oui, quand même, c'est dans ces proportions.
C'est vraiment pas anodin comme chiffre. Et c'est pas une maman, ça concerne pas une maman, ça concerne
un grand
plupart
nombre.
Des mamans, ouais.
On va faire une petite pause musicale dans cette interview en écoutant Petit Pays de Gaëlle Faye.
Gatoyi, gaugu kaniniya, warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisseigny. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Je t'aime, ça j'en suis sûr.
Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Sans-abrisme bat des records dans la capitale. Il touche en particulier les personnes exilées. Lia est en compagnie de l'assistante sociale Bénédicte Maraval.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le Revers. Ce collectif regroupe une quarantaine d'organisations, le Secours catholique, Action contre la faim ou encore le COMED, le comité pour lequel vous travaillez. Ces associations ont co-rédigé un plan de prise en charge des personnes sans domicile. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, on est 42 associations.
42 associations, j'avais dit une quarantaine.
Oui, c'est parfait. Et avec tous des tailles différentes. Il y en a des très grosses, comme celles que vous avez citées. Il y a Médecins du Monde aussi. Et puis après, il y en a des plus petites et des moyennes. Nous, on est dans les moyennes. Et puis, il y en a des encore plus petites. Et l'idée, c'était de se dire que il y a les municipales qui arrivent et on veut que le sujet des personnes qu'on accompagne, des personnes qui sont sans domicile, soit un des sujets débattus pendant la campagne, pour pas que les personnes soient oubliées, pour pas que nos sujets soient oubliés. Et du coup, on s'est organisé. On est des gens sérieux. On a travaillé nos sujets et on est tous des acteurs de terrain dans ce collectif. Du coup, avec nos expériences de terrain, avec le témoignage des personnes les premiers concernés, les premiers et premières concernées, Et avec des associations qui sont spécifiquement sur ce sujet des premiers et premières concernées, on a rédigé un plan de prise en charge pour les personnes sans domicile. On a listé ce qui était nécessaire pour... Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites par la municipalité de Paris. Donc il y a des choses à garder, évidemment, mais il faut améliorer les choses. Il y a encore d'autres choses à faire et tout n'est pas fini.
Vous pensez à quoi dans l'existant, dans ce qui existe déjà ?
Alors, dans ce qui existe déjà, par exemple, si je me base sur la santé, qui est mon domaine dans le revers, par exemple, il y a déjà 3 centres de santé municipaux qui soignent des personnes qui n'ont pas de protection maladie. C'est déjà pas mal. Qui font avec des interprètes ou qui sont en pluridisciplinaire. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. En ce moment, les délais sont d'un mois, je crois. Il faudrait que les personnes puissent y aller sans rendez-vous, qu'elles puissent être soignées sans rendez-vous et qu'il y en ait plusieurs, parce que 3, ça suffit pas.
Alors, on aura l'occasion de reparler de la santé, mais parmi les 12 recommandations de ce plan, il y a par exemple respecter les droits des personnes à la rue et mettre fin au nettoyage, rendre effectif le droit à un hébergement inconditionnel et continu des personnes sans domicile. Alors, nous n'allons pas toutes les citer, mais lesquelles vous semblent les plus urgentes ?
Par exemple, quand vous parlez on a parlé des personnes qui arrivent après un parcours migratoire très difficiles et qui ont fui leur pays. Ce n'est pas non plus anodin de partir de son pays. Quand elles arrivent, elles n'ont pas d'accueil. Le premier hébergement, ce qui n'est pas un hébergement, c'est les trottoirs à Paris. Ça, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un endroit où, quand une personne arrive, elle puisse avoir un espace sécurisé, un espace où elle puisse rencontrer plusieurs associations, où elle puisse avoir un lit pour dormir, qu'elle puisse se laver, qu'elle puisse avoir une évaluation, un bilan de santé, enfin... Il faut qu'il y ait ce genre d'accueil à Paris. Et pour le moment, il n'y a pas ce genre d'accueil. Et ce sont des personnes qui vivent sous les tentes, dans les tentes sous les métros. Et ça, ça ne va pas. Ce sont des demandeurs d'asile, des personnes qui travaillent. Voilà. Donc, par exemple, ça, c'est un des points qui est important et qu'il faut... De toute façon, ils sont tous importants, les 12. Mais...
Vous avez un exemple concret de situation qui vous vient en tête, que vous avez rencontré sur le terrain, de difficultés comme ça, qui concernent des personnes ?
Pour les personnes qui sont sous tente.
Dans votre expérience, dans les personnes que vous aidez, une situation concrète, une famille ou une personne en particulier, à qui vous pensez quand vous racontez ça ?
Ah bah oui, bah je repars sur mes mamans. J'ai en tête une maman qui faisait dormir la nuit, qui n'avait pas d'endroit et qui était apeurée avec ses deux enfants, 4 et 2 ans, donc une maman toute seule avec ses deux enfants, demandeuse d'asile, qui passait la nuit dans le métro avec une couverture par terre qui allongeait ses enfants dans les allées du métro, parce qu'il n'y avait pas... Il y avait de temps en temps des chambres, des hôtels, mais pas tout le temps, c'est ce que je racontais tout à l'heure. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas humain.
Alors, en parlant de pas humain, il y a la question de la dignité qui est abordée dans ce plan. Accueillir dignement les personnes exilées qui arrivent sur le territoire parisien. Cette recommandation est placée en deuxième position. Pourquoi lui avoir donné cette importance ?
Parce que c'est Paris, parce qu'on est une capitale internationale. On a une réputation à tenir quand même. Parce qu'il faut accueillir dignement les personnes, les mobiliers anti-SDF, ça va pas du tout, il faut héberger les personnes, ce sont des personnes qui ont eu beaucoup de violence encore une fois et qui, de toute façon, l'hébergement doit être inconditionnel et les recevoir dans leur langue, les accueillir, voilà.
L'une des propositions s'intitule « Prendre soin de la santé de toutes et tous ». Vous qui êtes assistante sociale, quel est votre regard sur cette problématique ?
Alors, c'est parce que je suis assistante sociale dans un centre de santé que je vais pouvoir avoir un regard sur cette thématique.
Mais justement, c'est pour ça que je vous pose la question.
Prendre soin des personnes, on n'est pas forcément, il n'y a pas que les médecins qui prennent soin des personnes, on est tous à pouvoir prendre soin des personnes dans la façon dont on les accueille et la façon de les accueillir est un soin en fait. On sait aussi la santé mentale, c'était la grande cause 2025 et ça continue à être de nouveau la grande cause en 2026, mais les moyens, on ne les voit pas vraiment venir. Nous, dans notre plan de prise en charge, on a un peu fait une liste au Père Noël en se disant pour que ça soit mieux, pour que les personnes puissent être accueillies dignement et accompagnées, il faudrait ça, ça, ça et ça. Donc, on a budgétisé. Et là-dedans, on a mis 40 emplois de 40 équivalents d'emplois, enfin bref, 40 psychologues, par exemple. On a mis aussi 50 équivalents d'emplois d'interprètes, puisque l'interprétariat professionnel, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et qui fait partie de l'accueil, qui fait partie du soin et qui fait que ça va plus vite aussi et pour les personnes. Et pour les médecins, les soignants, enfin pour tout le monde, ça va plus vite avec l'interprète professionnel. Et ça n'empêche pas l'apprentissage de la langue, au contraire, française. C'est pas parce qu'on a un interprète à un moment donné dans l'accueil qu'on n'a pas envie d'apprendre le français après ou qu'on va pas apprendre le français après.
Alors le collectif Le Revers se dit apartisan, mais on imagine quand même qu'il y a les programmes de certains candidats qui vous satisfont davantage en matière de lutte contre le sans-abrisme, par rapport à l'accueil des exilés.
Alors on a pris la question à l'envers. On a notre plan de prise en charge, on a été le présenter aux candidats, pas de l'extrême droite, mais on a demandé des rendez-vous à chaque candidat pour leur présenter notre plan en leur disant « Nous, on vous dit qu'il faut ça pour les personnes sans domicile à Paris. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Et comment vous pouvez mettre nos propositions dans votre programme ?» Et donc, on a réussi à rencontrer... on a rencontré M. Grégoire, on a rencontré Mme Chiquérou, on a rencontré M. Bournazel, on a rencontré Mme Chauvel de la NPA, du NPA. Et on n'a pas réussi à avoir un rendez-vous avec Madame Dati.
Et quel retour vous avez eu, par exemple, d'Emmanuel Grégoire, que Madame Sarah Knafo accusait de vouloir faire de Paris un centre de migrants à ciel ouvert? Est-ce qu'il a eu des retours positifs par rapport à votre plan?
Oui, on arrive à avoir des propositions qui se rejoignent et dont on a aussi rencontré Monsieur Béliard et Monsieur Brossat, à qui on a aussi présenté le plan de prise en charge. Et on reconnaît que dans les programmes des uns et des autres, il peut y avoir des propositions que nous on fait. Par exemple, les bagageries, pour en prendre juste un, mais ce n'est pas le seul exemple. Mais la nécessité de mettre en place des bagageries, ça a été repris dans le programme de M. Grégoire. Mais par exemple, ce n'est vraiment pas le seul point et il n'y a pas que lui qui a repris des points.
J'aurais une dernière question, mais en matière de budget, est-ce que pareil, certains candidats arrivaient à s'accorder, puisque le plan que vous proposez, il s'élève à hauteur de 110 millions d'euros, soit 1% du budget annuel de la ville de Paris. Est-ce que c'est la même importance qui a été accordée chez les uns et les autres?
1% du budget annuel, c'est pas grand-chose. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, avec notre liste au Père Noël, ça a donné 1%. Donc, chiche, c'est vraiment pas grand-chose, 1%. Après, c'est Madame Chiquérou, elle a dit banco, et puis après, il y en a d'autres qui ont les informations, et ça permet de présenter quelque chose de sérieux aussi.
Merci beaucoup.
Nous arrivons au terme de cette interview. Merci Lia, merci à vous, merci. Bénédicte Maraval. Je rappelle que vous êtes assistante sociale au Comité pour la santé des exilés, et que vous avez donc présenté ce plan à tous les élus pour les municipales.
Pas tous.
Pas tous, malheureusement, pas l'extrême droite qui n'écoute pas grand-chose parfois. Mais tout de suite, on fait une petite pause musicale et on va écouter Entre chez moi de Les yeux de la tête.
Ma maison est la tienne et mon pays est aussi à toi. Entre chez moi, mi casa es tu casa et mon pays te doit bien ça. Toi le clandestin caché, toi le vagabond perdu, toi le déserteur chassé, entre chez moi. Toi le marginal masqué, toi le maquisard déchu, toi le rebelle rejeté,
entre chez moi. Entre chez moi, ma maison est la tienne. Et mon pays est aussi à toi. Entre chez moi, mi casa es su casa. Et mon pays te doit bien ça.
Toi le penseur enfermé, toi le poète maudit, toi l'artiste censuré, entre chez moi. Toi l'hérétique banni, toi le métèque de la rue, et toi le réfugié qui fuit, entre chez moi.
Et laisse la porte grande ouverte derrière toi, que les frontières succombent. Et laisse la porte grande ouverte derrière toi. J'attends tout le monde chez moi. Entre chez moi, ma maison est la tienne. Et mon pays est aussi à toi. Entre chez moi, mi casa es su casa. Et mon pays te doit bien ça.
Toi qui fuis ton pays, que mes pères ont pillé, que mes pères ont meurtri, toi qui fuis mon passé, toi qui quittes ta terre par la mer inconnue, toi qui ne te retourne plus, toi qui laisses famille et racine en feu, toi qui n'as rien à perdre, toi qui n'as que tes yeux pour pleurer le sort de tes enfants, de tes femmes et de ton pays en flammes.
Entre chez moi, ma maison est la tienne, et mon pays est aussi à toi.
Entre chez moi, mi casa es su casa, et mon pays te doit bien ça.
C'était Entre chez moi de Les yeux de la tête et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h.
Tiens, c'est Grégory qui nous a rejoint pendant cette musique pour la chronique actu.
Bonsoir à tous, à toutes, français, françaises et surtout étrangers, étrangères.
Oui, mais pourquoi une telle précision ?
Alors, bah, disons qu'en ce moment, quand on est issu de l'immigration, l'ambiance n'est pas forcément au collier de fleurs et au cœur avec les doigts. Donc ouais, j'avais envie de préciser à toutes ces personnes venues d'ailleurs et qui peut-être nous écoutent qu'elles étaient les bienvenues en France. Après, vous me direz, c'est facile pour moi de lancer ça, ça ne va rien changer à mon quotidien, personne ne va me réquisitionner mon canapé pour y faire dormir un groupe d'étudiants chinois. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si tu le savais, mais le principal motif pour une première demande de titre de séjour en France, c'est les études. Mmh. Alors on pourrait se dire, bah c'est super, la France se donne les moyens de faire venir de nouveaux cerveaux. Oui, oui, c'est le cas. Les étudiants étrangers ont accès aux mêmes droits académiques que les étudiants français. Mais ne sortons pas tout de suite le champagne et les confettis, car il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel a décidé d'exclure des aides au logement les étudiants étrangers non boursiers, donc hors Suisse, Union européenne et Espace économique européen. Tout ça après que la Cour des comptes ait déjà demandé au gouvernement d'affiner sa sélection des étudiants étrangers. Alors ça, bon, même si c'est pas encore ultra clair, ça peut s'entendre. L'accueil de ces étudiants coûte près d'un milliard d'euros à l'État chaque année, et ça rapporte quoi au final ? Bah si, c'est une vraie question, hein. Seulement 30% d'entre eux restent en France pour bosser après leurs études. Et la plupart choisissent des filières plutôt sport ou littérature. Alors c'est très complémentaire, hein, la tête, les jambes, ouais, c'est super. Mais est-ce qu'on a envie de ne vivre qu'entouré de coachs de foot et de profs de philo ? Pas sûr. Donc être plus sélectif, moi je dis pourquoi pas, mais après tout dépend des critères de sélection.
Et du coup, pour toi, ce serait quoi la condition principale pour accéder à un titre de séjour étudiant ?
Julie, là, je suis assez surpris que tu me poses la question, enfin, tellement ça me paraît évident. Enfin, pour moi, l'unique critère à considérer, bah, c'est le physique. Enfin, on va quand même pas s'encombrer de personnes moches. Dans ce cas-là, on a déjà bien assez de Français. Hein. Ah, d'ailleurs, ce qui pourrait être pas mal et qui coûterait pas un rond, tu sais, c'est faire comme les échanges d'appart, là. On confierait à des pays des milliers d'étudiants français, bah, plutôt moches, et en échange, ils nous enverraient les leurs. En plus, si on a de la chance et qu'ils font pas gaffe, ils sont capables de nous en envoyer des beaux.
Ouais, mais la beauté, au final, c'est subjectif.
Ah putain, je l'attendais, celle-là. Bah non, 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 la beauté, c'est la beauté, la laideur, c'est la laideur. Si le monde entier va au musée, au théâtre, c'est pas pour se brûler la rétine et relancer sa consommation de Xanax. Bah non, c'est pour se faire du bien en regardant des belles choses. Ah non, mais plus j'y pense, plus cette idée de sélectionner sur le physique, c'est du gagnant-gagnant. Non mais regarde, il y a plein de villages en France qui, grâce aux familles de migrants qui s'y sont installés, ont relancé leurs services publics et ont redynamisé leur démographie. Donc c'est sûr, par exemple, qu'à l'hôpital, bah, tu te rétablis vachement plus vite face à Malik, médecin canon venu d'Algérie pour ses études, bah, que face au docteur Gérard, qui n'est jamais sorti de Limoges. En plus, cette théorie, elle s'applique partout. Tu places des beaux et des belles à l'école, à la poste, à la police. Non mais toutes les embrouilles s'arrêtent. Et au pire, ces embrouilles, elles se feront entre moches. Donc s'ils s'éliminent entre eux, on s'en fout. Donc moi, je signe, je dis oui au renforcement de la sélectivité des étudiants étrangers et je me porte même volontaire pour les choisir. À moins que je ne rentre pas dans les critères de sélection pour intégrer le jury. Et ça, je trouve que ce serait vraiment, vraiment dégueulasse.
Ça, c'est vrai que ce serait terrible. En tout cas, c'est un beau programme. Tu pourras le proposer aux candidats pour les municipales.
De ce pas.
Vu qu'on est dans la thématique des mardicipales sur Radio Campus Paris.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Salut les auditeurs et les auditrices.
Et pour...
Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir la Maison des Réfugiés. La Maison des Réfugiés, c'est un établissement public de la mairie de Paris qui est situé non loin de la place des Fêtes dans le 19e arrondissement. Quand je suis entrée dans la maison refuge, la Maison des Réfugiés, j'ai rencontré un monsieur qui m'a proposé un thé ou un café gratuit. Autour de moi, j'ai vu une borne d'accueil pour orienter au mieux les personnes et savoir qu'est-ce qu'on recherche, pourquoi on est venu ici. Cette borne a ceci de particulier qu'elle fait également office de bibliothèque. Façon subtile, je trouve, de montrer qu'ici toutes les histoires et a fortiori toutes les langues ont droit de citer. Dans une des salles adjacentes à l'accueil, des personnes s'affairent dans la cuisine pédagogique. Sophie, la directrice, vient à ma rencontre pour m'aider à mieux vous plonger dans une immersion sonore au sein de cette maison unique.
Donc je suis Sophie Aberbuche-Seur, je suis la responsable de la Maison des Réfugiés côté Emmaüs Solidarité. La Maison des Réfugiés est une maison un petit peu spécifique puisqu'elle est initiée Ville de Paris et elle est pilotée par Emmaüs Solidarité et Singa Paris. Depuis 2019, elle est issue de la plateforme aux réfugiés qui a accueilli, qui a fait travailler un peu plus de 150 associations pour réfléchir à un autre accueil.
150 associations de toute la ville de Paris ?
Ouais, exactement. Donc elle est née sur ses prémices en 2019 dans le 14e arrondissement. C'était sa version un petit peu expérimentale parce qu'il fallait la relancer et que le bâtiment définitif là actuellement dans le 19e était en travaux et elle est arrivée dans le 19e arrondissement où elle a ouvert ses portes en juin 2024.
Pour quelqu'un qui n'est jamais venu à la Maison des Réfugiés, très concrètement, quand on rentre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, qui peut rentrer même à la Maison des Réfugiés?
Alors, déjà, elle a un nom qui est très très fort. C'est une maison, mais ce n'est pas non plus un accueil de jour. C'est une maison pour reconstruire sa vie. Et réfugié au sens ville-refuge, au sens de la ville de Paris. Donc, elle est accessible pour toutes les personnes. C'est un bâtiment qui est très grand, qui fait un peu plus de 800 mètres carrés, qui a beaucoup de salles de cours, beaucoup de bureaux de permanence, etc., une salle de sport, une salle de résidence atelier. Et concrètement, elle repose sur deux pôles. Le premier, c'est d'accompagner les personnes. Et le deuxième, ça va être aussi de sensibiliser les voisins. Et dans l'accompagnement des personnes, elle va être surtout axée sur l'accompagnement d'insertion professionnelle, d'apprentissage de langue, accompagnement social et santé mentale, et tout un pôle aussi culture et sport, qui est très important justement dans le cadre de recréer du lien social, etc. Tout ce qui est administratif et juridique, elle va plutôt orienter à l'extérieur. Et puis après, de l'autre côté, elle a tout un pôle de sensibilisation avec des activités. On fait des concerts, on fait des découvertes culinaires. On lance aussi beaucoup de conférences. Elle a aussi beaucoup de projections de films. Et elle a plein de moments de partage autour de jeux, etc.
Et l'ambition, en fait, du lieu, c'est de permettre de... La rencontre, c'est quoi un peu l'ambition au départ du projet de...
Alors déjà, c'est quand même l'accompagnement au démarrage des personnes. On a un dispositif d'insertion professionnelle qui démarre dès la demande d'asile et qui va jusqu'au statut de réfugié et qui essaye aussi de revaloriser les acquis professionnels et aussi l'équivalence des diplômes quand c'est possible. Au niveau de l'apprentissage de français, on a fait le choix de prendre des cours un petit peu plus débutants, puisque c'est ceux qui sont parfois les plus difficiles concrètement à avoir. Et après, effectivement, toutes les autres activités, ce sont vraiment de l'accompagnement global avec une volonté, c'est d'autonomiser les personnes et puis qu'elles puissent réussir et refaire leur vie ici. Voilà, on a des personnes qui ont des chemins de vie qui sont très fracturés, très compliqués. Donc, d'ailleurs, ici, en fait, c'est 55 associations qui travaillent avec nous par semaine, qu'on coordonne. D'accord. Et les 55 associations ont un devoir, c'est de travailler entre elles pour créer de nouveaux dispositifs ou agrandir leur accompagnement pour aller sur une meilleure possibilité d'insertion, de compréhension, de formation, etc.
Ok, et sur les différents pôles dont vous avez parlé, insertion professionnelle, enfin les associations qui sont en lien sur l'insertion professionnelle, la santé, etc., etc.
Et après, on dispose de toutes les ressources villes aussi, plus toutes les ressources partenaires. Donc quand les orientations sont à l'extérieur, l'espace le plus important de la maison, ça va être, on a un café-thé solidaire qui permet de faire un premier contact. J'ai une équipe qui est fantastique, qui parle environ 8 langues, ce qui permet d'avoir beaucoup de confiance et d'essayer de retrouver un petit peu le chemin où est-ce qu'il doit repartir pour repartir dans le bon sens, etc.
Et les gens vous sont orientés, enfin le public vous est orienté par qui ?
Parfois, il vient tout seul. Parfois, c'est du bouche à oreille, beaucoup. Et puis après, ça vient aussi des centres d'hébergement, des centres sociaux. Et puis après, on a aussi toute la dynamique. Alors, pas beaucoup aussi de l'environnement du 19e. Et puis après, la dynamique ville aussi. Donc, voilà.
Quelles sont un peu les actualités de la maison là prochainement ? Et est-ce que si je suis quelqu'un de totalement extérieur, je peux y venir ? Par exemple, un étudiant qui nous écoute ?
Là, les prochaines dates les plus importantes, c'est jeudi. On a une exposition qui se lance, comme ça arrive, de manière thématique, où sont les personnes qui ont pris en main leur propre reportage ici, qui est très sympa. Et la prochaine très grosse date, ça va être le 5 mars, où on reçoit un de nos partenaires, en fait, Espero, qui a 3 ateliers de couture en insertion et qui va organiser son défilé couture ici. Il y aura 30 mannequins, c'est de l'upcycling. Le tout premier défilé, il avait eu lieu à San Francisco. Les derniers au musée d'Orsay, là cette année c'est la maison des réfugiés. Donc on est vraiment très très contents, d'autant que c'est un partenaire qui travaille depuis très très longtemps avec nous. Okay. Le 8 mars, il y a tout un événementiel qui sera bientôt annoncé sur maisondesrefugiés.paris. sur plusieurs dates autour de la Journée internationale du droit des femmes. Et ça va démarrer le 8 mars avec un concert, un cocktail. Après, il va y avoir des travaux autour de réalisation de petits courts-métrages, etc., qui seront rediffusés à la maison. La programmation est très très riche, on a aussi beaucoup de cours de sport, de danse, etc. Tout ça c'est accessible gratuitement, sur inscription, directement en venant à l'accueil
de la maison.
Voilà, et ça c'est accessible aussi aux étudiants, etc. Puisque le plus important c'est de mélanger tout ce beau monde sur ces activités de partage.
Du lien aussi, j'imagine.
Voilà.
Et vous avez des réseaux sociaux, vous êtes sur Instagram?
Instagram, LinkedIn, Facebook, et puis le main, c'est le site de la Maison des Réfugiés .paris.
C'est quoi un peu une journée type à la Maison des Réfugiés?
Je pourrais pas vous donner une journée type, c'est plutôt... Faut savoir que la maison, elle est ouverte au public de 10h à 18h tous les jours, sauf le lundi matin et le jeudi matin. Et le dimanche, elle est ouverte de 13h à 18h. Donc ça, c'est toutes les ouvertures publiques. Après, elle se décale beaucoup en fonction des projections, débats de films, conférences. Une journée type, il n'y en a pas énormément. Il y a toujours un mix, bien sûr, dans ces activités de base d'insertion professionnelle, d'apprentissage de langue, de culture et sport, etc. Il y a un petit peu plus d'ateliers culturels et sportifs entre le mercredi et le vendredi, et le dimanche d'ailleurs. Mais une journée type, c'est plutôt compliqué parce qu'on s'adapte beaucoup. Il faut savoir que chaque jour, c'est quand même... Des centaines de personnes qui sont déjà prises en charge dans les cours et les bureaux de permanence.
D'accord.
Plus un accueil global pour tout le monde. Donc, une journée type, d'ailleurs, si vous regardez le calendrier de la maison, vous verrez qu'il n'y a pas de semaine type non
c'est
plus.
Vrai. Ouais.
Parce que toutes les semaines, on a une activité qui est très dense et qui est très dynamique. Mais vous dire une journée type qui démarre comme ça et qui finit comme ça, c'est
ça
très compliqué.
Pas. Okay.
Non, parce que la maison est ouverte et qu'elle reçoit beaucoup de monde. Donc, chaque jour, c'est vraiment très différent. Mmh. Et puis elle doit avoir environ... un événementiel ouvert à tout public 2 à 3 fois par semaine qui sont complètement différents toutes les semaines. Donc,
okay. Super.
Donc c'est assez agile,
ouais.
Assez souple, assez très stimulant. Voilà.
Et ma dernière question, du coup, c'est un peu peut-être pour aider les personnes qui vont écouter, puisqu'elles n'ont pas. Du coup, c'est de la radio, donc on ne voit pas. Comment est pensé un parcours un peu typique d'une personne qui rentre donc, par
tout
la porte?
Tout se passe à partir de l'accueil bar-café.
D'accord.
Et en fait. La meilleure chose, c'est d'inviter les personnes à nous découvrir.
À venir prendre un café.
Exactement.
Et venir discuter avec les gens
voilà.
qui sont là.
Ouais.
Super, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Et merci à tous ceux qui nous écoutent.
Vous pourrez donc vous aussi vous rendre à la Maison des Réfugiés. C'était un reportage signé Betty qui nous a emmenés donc dans ce lieu du 19e arrondissement où elle a rencontré Sophie Haberbouche-Sueur, la directrice du lieu. C'était un plaisir de les écouter. Et tout de suite, nous allons écouter une musique qui s'appelle Internet Baby de Pink Panthers.
Like that.
C'était Internet Baby de Pink Pantress. Et on me dit que c'est elle-même qui fait ses prods. C'est encore plus impressionnant. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et c'est presque la fin, mais pas tout de suite.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Il reste encore une dernière chronique et pas des moindres, puisque c'est Aude qui va nous présenter sa toute première chronique. Et elle a choisi de nous parler de l'Institut du monde arabe.
Oui, merci Julie. Bon, comme vous l'avez sûrement entendu, Jacques Lang quitte l'Institut du monde arabe. Après 13 ans à la tête de l'institution, l'ancien ministre de François Mitterrand fait ses adieux. Officiellement, son mandat arrive à son terme. Sauf que le timing est un peu particulier. Pendant que Jacques Lang prononçait son discours d'au revoir au 9e étage du somptueux bâtiment réalisé par Jean Nouvel, en bas, dans les couloirs, des enquêteurs de l'Office national antifraude fouillaient les bureaux de l'Institut. En effet, le parquet national financier mène une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée autour de ses liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein. Autrement dit, buffet d'adieu d'un côté, perquisition de l'autre. Jack Lang, fidèle à sa ligne, a assuré être serein et n'avoir jamais touché un centime de Epstein et dénonce une campagne de calomnie. Mais soyons francs deux secondes. Une enquête du parquet national financier et des perquisitions le jour même de ton pot de départ, on a connu des sorties plus carrées. Et ce n'est pas exactement l'image d'un président qui quitte son bureau sous les applaudissements, avec le sentiment d'un devoir accompli. D'autant que l'enquête évoque une société offshore aux îles Vierges liée à la fille de Jack Lang, Caroline, et à Jeffrey Epstein. Et là, on ne parle plus seulement d'un carnet d'adresse embarrassant, mais également de soupçons fiscaux et financiers. Bon, voilà pour le contexte réel. Et maintenant, parlons un peu de sa succession. L'État propose Anne-Claire Legendre, diplomate de carrière, arabophone et proche conseillère d'Emmanuel Macron pour diriger l'Institut. Elle sera la première femme à prendre la tête de cette institution culturelle et diplomatique. Alors je ne doute pas qu'elle soit compétente, mais depuis la création de l'Institut du monde arabe en 1987, jamais une personne d'origine arabe n'a dirigé l'Institut. Jamais. Pas une seule fois. On parle d'un Institut du monde arabe, pas d'un institut sur le monde arabe vu par la France. C'est comme monter une grande rétrospective sur le cinéma africain et confier la direction à quelqu'un qui n'a vu que des blockbusters Marvel. Appeler ça du dialogue des cultures, c'est généreux. Moi, je dirais plus que c'est une sorte de continuité bien française. On célèbre la culture des autres, mais on garde la gouvernance pour soi. Et là, me dire que remplacer un président controversé par une conseillère de l'Élysée et appeler ça un nouveau départ, disons que le mot renouvellement est, on va dire, un peu ambitieux. Peut-être que cette nomination va moderniser l'Institut du monde arabe, et je le dis avec des grands guillemets. Mais la vraie question reste, à quel moment un institut qui se dit du monde arabe sera-t-il dirigé par quelqu'un issu de ce monde-là? Parce que sinon, on pourrait tout simplement l'appeler autrement. Institut français qui aime beaucoup le monde arabe, ce serait plus honnête.
Mais cette fois, c'est officiellement terminé, la matinale, et on se retrouve dès demain. Mais en attendant, n'éteignez surtout pas votre poste, puisque juste après, il y aura une autre émission à Contre-Taf. Et avant de vous laisser l'antenne, je voudrais remercier encore une fois nos invités, Bénédicte Maraval et Sophie Haberbouche-Sueur. Et surtout, chaque bénévole grâce à qui cette émission a été réalisée, Lia pour l'interview, Betty pour le reportage, Grégory pour la chronique actu, Aude pour la chronique libre, Julie à la réalisation et Julie aussi à l'animation, mais une autre. Et merci à Aude et Jeanne pour la coordination. Passez une agréable soirée, reposez-vous bien et dès demain, faites vos procurations pour les élections.